Alors, cette première étude dans ce séminaire, c'est peut-être la plus longue. Elle est longue, mais elle est importante. Parce que hier soir, beaucoup d'entre vous se sont levés pour prendre la décision, et Dieu l'a vu, de devenir de vrais sacrificateurs pour l'Éternel. Et ne croyez pas que ça se passe si facilement que ça. Quand on décide de se mettre au service du Seigneur, parce qu'on a donné sa vie, on se met en route pour lui, eh bien, comme le disait Michel hier soir, c'est une route d'embûches. Et cette étude ici, on va passer en revue les embûches. Donc ça vient compléter ce que Michel a donné hier comme enseignement. Et le titre ici de cette étude, c'est De la sortie d'Égypte au royaume de Yeshua. Alors vous voyez, c'est un parcours immense, très long parcours. Je vais faire d'abord un assez long préambule, et puis ensuite il y aura deux parties derrière. Alors, la sortie d'Égypte, c'est intéressant parce que, évidemment, il y a beaucoup de ressemblances entre la sortie d'Égypte et notre chemin à nous, sur terre, jusqu'au royaume de Yeshua. Et lorsque Moïse a reçu l'ordre de faire sortir les Hébreux d'Égypte, il a été confronté à des problèmes extraordinaires. Il fallait qu'il rassemble les Hébreux, ceux qui étaient prêts à partir, et j'ai eu l'occasion en Suisse de vous dire qu'il n'y en a eu que 20%. Il n'y en a eu que 20%. Donc ceux qui sont prêts à partir, ceux qui se sont levés hier, et puis tous ceux qui avaient déjà donné leur cœur et la volonté de suivre le chemin du Seigneur, c'est un petit groupe. Pas nombreux. Et le travail de Moïse, c'était de les rassembler pour en faire d'abord un peuple et ensuite une nation sainte. C'est un chemin. On ne claque pas dans ses doigts comme ça et hop, c'est fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et Pharaon, qui était en face, avait lui la mission, et j'ai bien aimé quand Michel a dit que Satan ne fait que sur autorisation. Vous savez bien que Pharaon n'est qu'une image de Satan, hein? Donc, ce qu'il a fait, il l'a fait sur autorisation. Et il a pour mission, lui, de mettre des embûches. C'est celui qui empêche de tourner en rond, si on va dire, et d'empêcher le peuple qui veut aller servir Dieu. C'est un esclavagiste. Alors, on va pas faire beaucoup d'hébreu, hein, mais juste un petit peu ici en démarrant. Pharaon, c'est un mot qui, je ne sais pas d'où il sort, encore une fois, c'est certainement le coup des Grecs, mais en hébreu, c'est paro. Paro, il y a quatre lettres. Il y a un P, un resh, un ein, et puis un he, quatre lettres. Et quand vous prenez les deux lettres extrêmes, le p et le he, avec ces deux lettres-là, vous formez un autre mot. Vous savez que les Juifs aiment beaucoup faire ça. Et vous formez le mot p. Et p, c'est une bouche. Et si vous prenez ensuite les deux lettres qui sont au milieu, il y a le resh et le hain, vous formez le mot ra, qui est le mal. Donc c'est la bouche qui dit du mal. C'est ça que ça veut dire pharaon, le pharaon. C'est la bouche qui dit du mal. Vous voyez? Et bien sûr, en disant le mal, il crée le mal. Hein? Alors, il va, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des esclaves. Qu'est-ce qu'un esclave? Ben, d'abord, c'est quelqu'un qui n'a plus le droit de parole. Un esclave, on lui dit tais-toi. tu n'as pas la parole. Tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. Les esclaves, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Alors, voyez que un esclave, en hébreu, ça se dit « ilem ». Attention, c'est de l'hébreu, hein, c'est pas « ilem » en français. Hein. Trois lettres. Aleph, Lamed, Mem. Ilem. Ça, ça veut dire « esclave ». Si vous prenez ces mêmes lettres, que vous les mélangez et que vous formez un nouveau mot, vous voyez, quelqu'un qui est en esclavage, à quoi ça aboutit? Ça aboutit au mot « alimut ». « Alimut », ça veut dire « la violence ». Voilà ce que fait Pharaon, hein, le Pharaon. Et en ce qui concerne les membres du royaume de Yeshua, ce qui ressemble par rapport à l'histoire des Hébreux, c'est que effectivement nous devons sortir de ce monde, mais pas physiquement, mais spirituellement. Notre sortie, elle est spirituelle. Et nous sommes appelés à être dans ce monde, mais pas du monde. Et il n'empêche que, vous voyez, que malgré tout, quand on prend ces textes-là, on va trouver tous les pièges que Satan va tendre dans notre chemin. Et c'est bien de connaître le programme à l'avance. Alors, c'est un chemin vers la liberté. Le thème que j'ai choisi, moi, c'est vraiment de sortir de l'esclavage pour aller vers la liberté cette année. Et donc, c'est un chemin qui est quelquefois long et difficile, mais il est écrit « La fiancée monte du désert ». Et on va traverser aussi le désert. Hein? Alors, on est dans le monde, mais pas du monde. Et le Seigneur n'a pas voulu nous retirer du monde. Vous savez qu'il aurait très bien pu, à chaque personne qui se convertit, il aurait très bien pu la faire mourir et puis hop, ça y est, elle est partie. Mais non, il nous a laissé parce qu'on a une mission. Chacun a une mission. Et ben, vous connaissez bien le texte de Jean 17, hein, Jean 17 qui nous dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » D'accord ? Donc, il nous dit « sanctifie-les par ta vérité. » Hein, très important, trouver la vérité. Et un peu plus loin, il ajoute « Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Afin que tous soient un. Donc, tous ceux qui croiront en leur parole, eh bien, nous y sommes, c'est nous. Voilà. Donc, on doit rester dans ce monde parce que le Seigneur nous y a mis en mission. Alors, c'est pas si simple que ça. Et il faut apprendre à faire la distinction, et j'ai bien aimé quand Yeshua, vous savez ce texte où il dit « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Très important comme texte. Et vous remarquez que Yeshua ne nous demande pas de transformer ou de changer le royaume de César. Il ne nous demande pas non plus de le détruire. Il nous demande autre chose. Il y a deux royaumes. Deux royaumes qui ont des valeurs diamétralement opposées. Michel en a parlé hier soir. Les valeurs du monde sont décrites dans l'Apocalypse, je ne vais pas les relire, Apocalypse 18, hein, et donc la première c'est l'or, le 440 et compagnie, et puis la dernière ce sont les âmes humaines. Voilà le royaume du monde. Et de l'autre côté, c'est tout le contraire, et les valeurs du royaume de Yeshua, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voilà les valeurs du royaume. Tout le reste décline de ça. Et l'amour dont il est question ici dans ce texte, ça n'est pas n'importe quoi, puisque Yeshua ajoute dans Luc 6, 27, « Mais je vous dis, vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Mais vous savez, pour en arriver là, il faut passer par un certain nombre de chemins. Et dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un beau côté. C'est le bien et le mal. Donc il y a le bien. Et c'est évidemment pour ça que la femme est tombée dans le panneau, parce qu'elle a cru qu'il n'y avait que le bien, sans doute. Mais bon, c'est comme ça. Et la manifestation de ce beau côté-là se retrouve encore dans notre monde. Il y a des beaux côtés qui sont attirants, mais qui sont trompeurs. Et quand le Seigneur nous envoie dans ce monde, il fait de nous des signes. Et il nous dit, dans Luc 10, versets 10 et 11, « Dans quelque ville que vous entriez, et si l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Et l'installation du royaume de Yeshua sur terre, parce que c'est sur terre qu'il va s'installer pendant le millénium, eh bien, il est prévu à un temps fixé que nous ne connaissons pas. Et ce n'est pas la peine de chercher après. Simplement, le Seigneur nous a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et dans Actes 24, verset 4, il dit, Actes 1, verset 7, il dit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Donc, ce n'est pas la peine de chercher la date. Moi, j'ai arrêté ça depuis un moment, hein, parce que c'est vrai que je l'ai fait. Je l'ai fait et je peux vous assurer que ça conduit à l'orgueil. Vouloir chercher la date, c'est très intéressant, c'est passionnant. En plus, c'est un jeu de construction qui marche très bien. Les choses s'emboîtent très, très bien. Et on finit par arriver à des dates et on se plante. Et on a perdu du temps. Et ce que je disais à table tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens comme ça qui essayent de savoir mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et pendant ce temps-là, quelle est leur vie? Quelle est leur vie? Est-ce qu'ils se préparent? Parce que ça peut être à tout moment. À tout moment. Ça peut être demain, ça peut être ce soir. Alors, tant que le royaume du malin subsiste, ceux qui appartiennent au royaume de Yeshua ont un rôle d'ambassadeur. Nous sommes des ambassadeurs. Et la question est donc de savoir quelles sont donc les prérogatives d'une ambassade. C'est pas moi qui le dis, puisque c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Voilà le rôle de l'ambassade. Alors je suis allé voir pour m'informer, mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'une ambassade ? C'est intéressant d'aller voir ce que c'est qu'une ambassade, au moins à l'heure actuelle. Et alors, une ambassade, c'est une représentation d'un État dans un autre État. Donc, ce qu'on appelle l'Église est une représentation du royaume de Dieu dans le royaume de Satan, le royaume du monde. L'ambassadeur est subordonné à son gouvernement. Nous sommes donc, vous et moi, subordonnés à Yeshua. C'est lui, le roi. Et nous tenons notre pouvoir de lui et nous l'exerçons en son nom. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. C'est en son nom. Et outre le rôle d'information, parce que nous devons informer sur notre royaume, eh bien, nous devons protéger les ressortissants de notre royaume. C'est-à-dire que nous devons aider et protéger ceux qui font partie du royaume de Dieu. Les ambassades sont des lieux protégés et ils sont inviolables selon la loi, garantis par une convention internationale. Les agents de l'État hôte, donc les agents du monde, on va dire, n'ont pas le droit de pénétrer dans l'ambassade sans l'accord de l'ambassadeur. Aucun bien de l'ambassade ne peut faire l'objet d'une perquisition, d'une réquisition ou d'une saisie. Vous vous rendez compte? Donc nous n'avons pas pour rôle de changer le royaume de Pharaon, mais d'être témoin d'un autre royaume qui va être mis en place. Et c'est comme disait Michel, les nations vont se tourner, mais à un moment donné, vont se tourner vers Yeshua et vont devenir des nations qui seront des nations, il y aura les boucs et les brebis. Et les brebis resteront, les nations brebis resteront pour former le royaume du millénium. Alors c'est à nous à annoncer tout ça. Et maintenant, puisque nous avons décidé de quitter l'Égypte, puisque nous avons décidé hier, et pour d'autres avant, de nous mettre en route pour arriver au royaume de Yeshua, Pharaon, le roi de ce monde, va mettre des bâtons dans nos roues. Parce qu'il sait, très bien qui va partir, il est au courant. Si Yeshua vous a vu hier soir, vous levez, Satan l'a vu aussi. Tout ce que vous avez prononcé, Satan l'a entendu. Donc, il est très organisé et il va organiser votre programme, ne vous inquiétez pas. Ah non, mais ça, il n'y a pas de doute. Hein. Et ça n'est pas un jeu d'enfant. Alors maintenant, je vais commencer la première partie de l'étude. Ce sont les pièges de Pharaon. On va les passer en revue parce que c'est assez méthodique. Hein. Vous allez voir, j'ai rien inventé. Tout est dans la parole. Mais ça n'est pas un jeu d'enfant. La sortie d'Égypte, ça n'a pas été un jeu d'enfant. Rappelez-vous, il a fallu les 10 plaies d'Égypte. Il a fallu un temps quand même assez long. Hein? Alors, il y a une clé très importante que j'aimerais que vous reteniez. Cette clé, c'est qu'il allait alourdir nos charges. Ça, c'est une clé que vous allez retrouver tout le temps. Mais c'est une clé, ce sont des charges qui prennent des formes différentes, qui sont quelquefois bien camouflées, et que l'on croit quelquefois des charges chrétiennes. Parce que il sait très bien déguiser les affaires. Alors on va les passer en revue. Si vous voulez, le fondement de sa pensée à Pharaon, c'est dans Exode 5, des versets 7 à 9. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. » Mais l'accusation. Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde aux paroles de mensonge. » Voilà, l'objectif, c'est ça. Vous alourdir les charges. Donc, je reprends. La technique consiste en deux points majeurs. Mettre des charges sur les épaules de ceux qui sont destinés à servir. Et deuxièmement, les amener à croire que les promesses de Dieu sont des mensonges. Et bien sûr, renoncer à la mission pour laquelle ils sont appelés. Satan agit donc de cette manière avec nous. Et il va mettre un planning d'embûches, et j'ai essayé de les classer, de la première à la sixième. On va avoir six. Et je vous en donne les titres. La première embûche va, si on tombe dedans, va nous amener au découragement. La deuxième va nous amener à être désorientés. La troisième va nous amener à perdre la vision du royaume de Dieu. La quatrième va nous amener dans la division. La cinquième nous amène dans la compromission. Et la dernière nous amène dans la défaite. Voilà son plan. C'est la guerre, hein ? Donc, il a établi un plan. C'est quelqu'un de sérieux, hein ? Il est très organisé. Il faut être organisé en face. Hein. On n'improvise pas. Hein. La vie chrétienne, c'est pas improvisé. Hein. Oui, je vais les reprendre au fur et à mesure. Hein. Alors, on va commencer par la première embûche, donc j'ai appelé le découragement. C'est une étape dans nos vies où le malin va accumuler des difficultés. Rien ne va comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on s'est avancé, on a dit « Seigneur, je veux te servir » et paf, les ennuis commencent. C'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce qu'on aurait pensé. Parce qu'on se dit « Seigneur, je veux te servir, tu vas m'ouvrir des portes, etc. » Non, 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 tout se ferme, il n'y a rien qui marche. C'est comme ça. Vous voyez, la société actuelle, elle est soumise à Pharaon. Beaucoup de gens sont épuisés actuellement. Il y a je ne sais combien de pasteurs qui font des burn-out. Hein? Mais il n'y a pas que les pasteurs. Hein? Alors, ils sont épuisés non seulement à cause du travail, mais à cause de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les transports, les séparations, les objectifs à atteindre. Vous savez, dans les entreprises, vous avez des objectifs à atteindre, et quelquefois, c'est même vous-même qui devez fixer les objectifs que vous devez atteindre, des trucs qu'on ne peut pas atteindre. Des objectifs qu'on ne peut pas atteindre, des ambiances désagréables, des concurrences, des menaces de licenciement, etc. Et il faut ajouter à ça que beaucoup de couples actuellement sont désunis. Les enfants sont coupés en deux, excusez-moi de le dire. Hein? Il y en a qui disent que le divorce c'est bien, ben moi je n'ai jamais trouvé que c'était bien. Hein? Et quand les enfants sont coupés en deux, ils sont coupés en deux. Allez donc les réparer derrière. Alors, c'est l'accumulation de charges. On ne sait pas comment en sortir. C'est très décourageant. Et par-dessus ça, Pharaon ajoute l'accusation, de manière à ce que les personnes perdent confiance en elles. Il dit dans Exode 5, verset 17, « Vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites « Allons offrir des sacrifices à l'Éternel. » Et vous savez, quand on est un paresseux, quand on est accusé d'être un paresseux, eh bien, on prend le contre-pied et on devient un activiste. Un activiste dans l'Église, c'est quelqu'un qui fait du travail pour rien. Il fait du travail pour rien. Et dans l'Église, mon Dieu, combien de choses comme ça sont ajoutées pour rien, que Dieu n'a pas demandé, en tout cas pas à cette personne-là. Vous voyez ? Avant de commencer à construire une tour, il faut s'asseoir et se dire, est-ce que j'ai la capacité ? Est-ce que j'ai les matériaux ? Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que c'est à moi que Dieu a demandé ? Etc. Mais non, comme on est accusé d'être des paresseux, ben hop, tout de suite, il faut absolument se faire bien voir du pasteur, bien voir de je ne sais qui, et hop, on rentre dans le système de l'activisme. Ça, c'est une charge que le Pharaon met sur vos épaules. Moi, je retiens ce verset, mon fardeau est léger. Mon fardeau est léger. Ça ne doit pas vous conduire au burn-out. Jamais. Un serviteur de Dieu ne devrait jamais tomber dans le burn-out. Il est dans l'erreur, là. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Quelque chose ne va pas. Il s'est fait piéger. Alors, ça va plus loin que ça. Parce que, à partir de là, du fait que les choses ne vont pas toutes seules, dans Exode 5, versets 20 à 23, qu'est-ce qu'on lit ? En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi nous as-tu fait ce mal à ce peuple ? » C'est-à-dire que, à partir du moment où un message, par exemple celui de Michel hier soir, vous amène à prendre la décision de devenir sacrificateur, vous venez sur le devant, on prie pour vous, etc. Les ennuis commencent. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux ? Eh bien, ils sont allés accuser Michel. Mais oui, c'est ça. Pourquoi tu nous as fait ce message ? Regarde les ennuis qu'on a. Vous voyez ? C'est comme ça, hein ? Et on commence à se disputer, etc. Et là, même Moïse dit, va accuser le Seigneur. Mais pourquoi tu nous fais ça ? Pourquoi tu nous fais ça ? Et donc, on retrouve le même processus à la chute d'Adam et Ève. Adam qui accuse Ève, qui elle-même accuse le serpent, etc. Et Pharaon charge le peuple qui accuse Moïse, qui accuse Dieu. Et Moïse a maintenu le cap. Il faut pouvoir traverser ça. Il faut pouvoir vraiment comprendre que Dieu, que le Seigneur a dit, mon fardeau est léger. Ne vous laissez pas impressionner par tous les manques qu'il y a dans les églises. On n'est pas obligé de boucher tous les trous. Ne vous laissez pas impressionner par toutes les pressions qu'on peut faire sur vous pour vous lancer dans telle ou telle activité. Pensez d'abord à ce que Dieu vous demande. Et moi, je vous dis que Dieu vous demande d'abord de vous occuper de vos enfants et de votre famille. D'abord. D'abord. Alors, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse en réponse ? Eh bien, il lui dit, dans Exode 7, au premier verset, « Je te fais Elohim pour Pharaon. » Je te fais Elohim pour Pharaon. C'est comme s'il lui disait « Je te fais Dieu pour Pharaon ». C'est-à-dire que comme ambassadeur, tu es une représentation de Dieu sur terre. Et vous êtes des représentations de Dieu sur terre. C'est-à-dire que les gens qui vous regardent vivre vont avoir une certaine opinion de Dieu à travers vous. Vous imaginez la responsabilité qui est dessus. Est-ce que Dieu tombe en burn-out? Certainement pas. Alors ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est la désorientation. Parce que quand le malin n'a pas réussi à nous faire croire que la parole de Dieu est un mensonge, il tente de nous faire croire qu'elle n'a rien de particulier, que les promesses sont banales, qu'elle n'est pas unique, cette parole. Et pour cela, Pharaon va céder à un petit peu de terrain. Il dit dans Exode 8:21, il dit « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » La ruse se situe dans le fait que les Hébreux sont invités à servir. Dans Exode 8:21, c'est pas ce que j'ai dit ? Donc la ruse se situe dans le fait que les Hébreux sont invités à servir leur Dieu en Égypte. Satan essaye de nous faire croire que nous pouvons servir Dieu en restant dépendants de lui. Au fond, ça veut dire que nous pourrions servir Dieu en pratiquant nos péchés pendant la semaine et en faisant semblant d'être chrétien dimanche. C'est courant, hein ? Et alors on fait semblant d'honorer Dieu le dimanche, etc. Mais finalement, pendant la semaine, parce que de toute façon, comme la foudre n'est pas encore tombée sur nous, bah, ça va, ça passe. Hein, c'est vrai. Ici, je vais vous lire un petit texte de Rick Joyner. Il dit, c'est présenter une doctrine erronée que de présenter la grâce de Dieu comme un pardon accordé continuellement à des hommes qui pêchent continuellement. Quand nous abusons de sa grâce et que nous vivons selon la chair, c'est que nous sommes éloignés de la grâce. Vous voyez, le fait d'avoir un pied de chaque côté, fait que nous ne savons pas faire autre chose que de faire le grand écart. Ben ouais. Oui, mais vous voyez, les gens, puisque nous sommes des Elohim pour le monde, les gens, ils se disent, tiens, des Elohim qui font le grand écart. C'est spécial. Ça veut dire que ma vie, dans ce cas-là, elle n'est pas cohérente. Il n'y a pas de cohérence entre ce que j'annonce, ce que je dis et ce que je vis. Les premiers à voir ça sont les enfants. S'il n'y a pas de cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, les enfants le voient tout de suite. Mais le monde le voit aussi. C'est un contre-témoignage de première qualité. Un contre-témoignage. Quand on annonce des choses aux gens et qu'on fait le contraire, et c'est une catastrophe, et c'est un affront à Dieu. Parce qu'il nous a missionné pour quelque chose, il ne nous a pas missionné pour le trahir. C'est une trahison. Et le Seigneur, quand il parlait aux hypocrites, il leur a donné une bonne leçon. Hein. 8 fois, il leur a dit « Malheur à vous ». 8 fois. Et sans compter que non seulement le monde, les gens du monde le voient, mais sur la question de la conversion d'une telle personne, on peut se poser des questions. Hein. Ça, c'est clair. Parce que la pratique du yo-yo, hein, « Je pêche, tu pardonnes, je pêche, tu pardonnes, je pêche, tu pardonnes », c'est du yo-yo, hein, ça. Ben, c'est quoi la repentance, là? À mon avis, là, on peut se poser la question. C'est donc la désorientation. on est désorienté parce qu'on a mis un pied de chaque côté. C'est comme si on avait un pied dans deux chemins différents. Par où je dois aller? Je ne sais plus. Alors, on tombe dans le troisième panneau qui est la perte de vision. Parce que, vous voyez, quand Pharaon s'est rendu compte que Moïse ne changeait pas d'avis, ne changeait pas d'objectif, et il a proposé de céder un petit peu de terrain encore. Et il dit la chose suivante. Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel des sacrifices, votre Dieu, des sacrifices dans le désert, seulement ne vous éloignez pas en y allant et écoutez ce qu'il ajoute. Priez pour moi. C'est vicieux. C'est vicieux, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, on est arrivé à la quatrième plaie. Et qu'est-ce qui est marqué à la quatrième plaie? Il est marqué, c'est au chapitre 8, Exode 8, verset 19, « J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » Autrement dit, à la quatrième plaie, il y a une distinction de traitement. Il y a vraiment une séparation entre les deux peuples, le peuple hébreu et le peuple du monde. Et c'est à ce moment-là que Pharaon dit « vous pouvez aller, mais pas trop loin, et priez pour moi ». C'est-à-dire qu'il veut faire croire qu'il appartient au peuple hébreu. C'est un rusé, hein. Voilà donc le malin. Vous savez que le malin a demandé presque à chaque fois, mais priez pour que cette plaie s'arrête. Mais c'est la seule fois là où il dit, priez pour moi. Voilà donc le malin qui décide pour qui nous devons prier. C'est quand même fort. Mais vous savez que c'est courant. Vous savez que c'est courant dans la Bible, dans l'Église. C'est courant. Je vais peut-être me faire des ennemis ici. Mais je vais vous en donner un exemple. Moi, j'ai entendu des prédicateurs qui disent « Il faut absolument qu'on prie pour l'unité des Églises. » Ben moi, je disais « Non, pas question. » Il n'y a pas question. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il faut faire une distinction entre l'Église et l'épouse. Dans l'Église, il y a du blé et de l'ivraie. Et le Seigneur a dit « Laissez-les pousser ensemble. » C'est à la fin qu'on fera le tri. D'accord ? Est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que vous croyez que c'est possible d'unir l'ivraie et le blé ? Non, alors pas question de prier pour l'Église, pour l'unité des Églises. Par contre, quand vous allez quelque part et que vous rencontrez quelqu'un qui est réellement de l'épouse, eh bien vous êtes en communion parfaite avec elle. L'unité de l'épouse, elle existe déjà. Je ne dis pas que l'épouse soit parfaite, c'est pas vrai. Elle doit se perfectionner. Il y a des péchés, etc. C'est vrai. Mais l'unité de l'épouse existe. L'unité de l'église, des églises n'existera jamais. Maintenant, je vais peut-être me faire des ennemis parmi les pasteurs, mais de toute façon, j'en ai déjà suffisamment. Alors, il faut faire très attention parce que dans les églises, justement, vous allez avoir des tas de sujets de prière qu'on va vous proposer, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est Satan qui, c'est le Pharaon si vous voulez, qui vous propose de prier pour des sujets dont on sait très bien que ça ne sert à rien. Eh oui. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, vous avez des charges sur vos épaules. c'est le maître mot, mettre des charges sur les épaules. Vous voyez? Et c'est très courant, c'est très courant. Et en plus, c'est décourageant, parce que ces prières-là, elles aboutissent pas. Vous comprenez? Et on dit, le Seigneur répond jamais. Ah bah oui, si vous priez pour que Satan se convertisse, vous pouvez y aller, hein. Il y en a pour un moment, hein. Bien sûr. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, mais si on priait pour que Satan se convertisse, les choses s'arrangeraient. Mais enfin, t'as rien compris ou quoi, là? Pas possible, d'accord? Moi, je connais des gens, ils sont toujours en train de jeûner. Comme s'ils pouvaient aller forcer Dieu pour telle ou telle chose. Puis il n'y a jamais rien qui change. On ne jeûne pas pour forcer Dieu. Enfin, vous voyez? Alors, c'est le plus grand des simulateurs. Et lorsque les Hébreux sont entrés en terre promise un petit peu plus tard, 40 ans plus tard, eh bien, ils ont détruit des peuples. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que Josué, il s'est fait avoir par les Gabaonites. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas demandé à Dieu. Mais ces gens, Seigneur, qui viennent là, ils ont l'air malheureux. Et le bon cœur, tout de suite, on va les aider. Et puis on s'aperçoit après que c'était des voisins, et que c'était des ennemis, et que ceci, et que cela, et qu'ils n'avaient aucunement l'intention de changer. Voilà. Mais vous savez que dans l'Église, Satan envoie des quantités de gens qui ont des besoins, mais plein de besoins. Je pourrais vous en raconter, mais ça va prendre du temps. C'est pas grave, Michel?
Non, pas si.
Ça remonte à 40 ans. Dans l'église où nous étions, Véronique et moi, il y avait deux femmes, une maman et sa fille, une maman de 80 ans et sa fille de 60, qui vivaient ensemble dans leur maison. Le papa était décédé. Et ils venaient à l'église et c'était des pauvres malheureuses. Et tous les pasteurs de la région, ils étaient passés, ils s'étaient épuisés sur leur corps, ils comprenaient pas. Alors quand c'est arrivé Noël, on allait chez eux, on amenait tout. Et puis on passait Noël comme ça. Puis un jour, on s'est rendu compte que la fille ne chauffait plus la maison. Elle avait enfermé sa maman et elle lui donnait même plus à manger, etc. Alors, quand on s'est rendu compte de ça, on a pris la maman chez nous, en accord avec la mairie, etc. Enfin, on a fait ça dans les règles. Et puis, le médecin qui s'occupait de la fille a voulu la faire interner, parce qu'il s'est dit, il y a vraiment un truc. Donc, un jour est venue l'ambulance et ils ont pris la fille. Et elle sortait de chez elle en criant « Ma cassette, ma cassette !» Alors le voisin m'appelle, et puis on dit « on va visiter sa maison pour savoir ce que c'est cette cassette. » Et on a trouvé une boîte, vous savez, les boîtes de biscuits en fer d'autrefois. Et dedans, il y avait l'équivalent de 850 000 euros. Non, 85 000 euros. Excusez-moi, parce qu'à l'époque, c'était des francs. Ça faisait 50 millions anciens. Voilà. Donc, on pouvait se payer une maison avec ça. Vous voyez? Alors, on est allé à la mairie. On dit, qu'est-ce qu'on fait de cette boîte? Il faut lui rendre. Donc, quand elle est sortie de l'hôpital, on lui a rendu. Ils ont quitté l'église. Ils sont allés dans une autre église et ont recommencé. Voilà, des Gabaonites, voyez. Et tous les pasteurs ont passé des heures et des heures et des heures et des heures. Voilà, et il y en a des quantités. Alors, c'est une ruse, c'est tout. À nous de discerner, hein. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Mettre des charges. Des charges sur vous. Vous faire faire des choses qui ne servent à rien. Ensuite, la chose suivante, la technique suivante, amène la division. La division, c'est une technique très efficace. Hein. Quand la vision n'y est plus, les hommes bâtissent eux-mêmes des visions. Moi, je connais plein d'églises où les gens, ils attrapent des visions. Et comme il dirait un autre pasteur, c'est la télévision. Mais il y a vraiment de tout. Hein. À boire et à manger, ça mène à rien du tout. Sauvez-vous. Alors, quand il y a deux visions, il y a division. Automatiquement. Alors, comment il fait Pharaon ? Ben, il dit, allez-vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est ce que vous avez demandé. La cellule de base, c'est la famille. Les enfants sont une partie essentielle de l'Église. Ils doivent être intégrés, enseignés. L'école du dimanche, ce n'est pas fait pour s'amuser. Je m'excuse de le dire. Nous, on a enseigné nos enfants. On leur a appris des versets. On leur a appris la parole de Dieu. Si on veut jouer, on peut jouer à la maison. Ils doivent se sentir participants. Et le malin va s'arranger pour essayer de mettre une séparation entre les adultes et les enfants, de manière à ce que le passage des générations ne se fasse pas. Il travaille à long terme. Donc peut-être qu'il ne va pas vous perdre vous, mais il va perdre vos enfants. Puis c'est tout. Et qu'est-ce que vous aurez gagné ? Vous aurez gagné des larmes. Vous aurez gagné de la tristesse, c'est tout. Parce que vous ne verrez pas ni vos enfants, ni vos petits-enfants venir au Seigneur Yeshua. Il n'y a rien de plus triste que ça. Mais vous voyez combien de familles, de pasteurs, des pasteurs qui passent un temps fou à faire je ne sais quoi dans l'église, et pendant ce temps-là, leurs enfants se droguent. Alors ils vont délivrer des drogués et eux-mêmes, leurs enfants se droguent pendant ce temps-là et se perdent. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce cinéma ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas le travail de Dieu ça. On commence par sa famille. Et puis ensuite, on organise l'église comme on peut, mais je suis désolé, mais la famille c'est d'abord. C'est d'abord. Ou alors le Seigneur n'aurait pas dû vous confier des enfants. S'il vous a confié des enfants, c'est qu'il y a une responsabilité derrière. Satan travaille à long terme. Même s'il n'arrive pas à stopper cette génération, il stoppera la suivante. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement sur la planète. La génération actuelle est en train d'être perdue. Combien de fois j'ai vu dans des cultes, pour se débarrasser un petit peu des enfants qui sont là, allez, joue avec ta tablette. Voilà. Ben, ils sont enseignés par les tablettes. Vous croyez qu'ils vont venir au Seigneur ? Ils vont venir à la tablette, c'est logique. Ils vont se convertir à la tablette. C'est leur Dieu. Et puis, maintenant, le pas suivant, c'est la compromission. Une autre ruse. Dans Exode 10, verset 24, on lit « Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Vos brebis et vos bœufs, c'est-à-dire les biens. C'est-à-dire ce qui nous permet de manger, de vivre, voyez. Et partir d'Égypte en laissant quelque chose en Égypte, c'est quitter le pays de Pharaon en lui mettant en gérance nos biens. C'est ça que ça veut dire. Au cas où ça ne se passerait pas bien en terre promise. Vous voyez. On ne sait jamais. C'est-à-dire que là encore, on manque de foi. Hein. C'est encore un fil à la patte, une bouée de sauvetage que nous propose le malin. En plus, ça part d'un bon sentiment, comme on dirait. Hein. Allons, vous ne savez pas si votre Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Mettez donc en sûreté un peu de bien dans mon pays. Au moins, vous aurez un recours. Combien de compromissions comme ça? Seulement, le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc, c'est ni plus ni moins que le cœur qui est en jeu ici. C'est le cœur. Au fond, ça revient à dire, chez qui allons-nous mettre notre confiance totale? Totale. Quand on s'est marié, Véronique et moi, ça fait longtemps maintenant, on avait comme verset « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et nous l'avons vu, mais incroyable et sans arrêt. C'est lui qui a pourvu à tout. C'est lui qui a pourvu à mes diplômes. Je n'ai jamais raconté, mais je ne vous le raconterai pas aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'est lui qui m'a donné mes diplômes et mon boulot. Et je savais que c'était lui. Et quand je suis arrivé devant le directeur, je lui ai dit, de toute façon, je sais que vous allez me prendre, c'est Dieu qui m'envoie. Et voilà, c'est le Seigneur. On avait mis notre confiance en lui. Et il nous a gâtés. Il nous a gâtés. On n'a jamais manqué de rien. Alors maintenant, nous allons quitter les ruses de Satan et rentrer dans le désert. Ça va? Vous tenez le coup? Vous savez que la traversée du désert, c'est quelque chose qui a permis au peuple d'être transformé. Vous voyez, dans les questions de ruses du pharaon, il y a beaucoup de décisions à prendre. Il faut absolument qu'on tienne le coup devant toutes ces ruses. Il faut qu'on passe le cap. Et puis ensuite, on n'arrive pas tout de suite au royaume. On rentre dans le désert. Quoi que vous fassiez, vous allez rentrer dans un désert. Et le désert a pour objectif de nous former. D'abord de nous déformer et ensuite de nous former. Parce qu'on a besoin d'être transformé. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et ne croyez pas que ça va se faire en une nuit, quoique Dieu soit capable de tout. Hein. Mais moi, je crois plutôt que ça se fait sur des années. Voilà. C'est du vécu. Alors, ils vont apprendre dans le désert, les Hébreux, ils vont apprendre à perdre les mauvaises habitudes. On dit que pour perdre une habitude, il faut 6 semaines. Ils ont compris que Dieu conduit son peuple et qu'il est le seul Dieu. Ils ont reçu les lois et les commandements. Ils ont formé un peuple uni, une nation sainte. Ils ont appris à lutter contre des ennemis genre Amalek. Et ils ont vu que Dieu est intègre. Ils ont appris la crainte de l'Éternel. Tout ça. Le vieil homme est mort au désert. C'est une nouvelle génération qui est arrivée. Et en cette fin des temps, à l'approche du retour de Yeshua, le monde actuellement est devenu un désert spirituel. Un désert spirituel dans lequel les chrétiens prêchent, comme le faisait Jean-Baptiste. Et pour préparer le chemin du Seigneur qui revient bientôt. Et comme disait Michel, il y a une date qui a été donnée, c'est le 1er septembre, a été donnée par le président Trump. qui a dit que tous les Américains devaient quitter la Corée du Nord au plus tard au 1er septembre. On commence à voir des choses bizarres qui se passent. Les Russes sont installés à 5 km du Golan. Au Yémen est tombée une bombe à neutrons. On ne sait pas trop qui l'a lancée. Donc il se passe des choses. L'Iran, on sait ce qu'il veut. Mais c'est tout proche. Alors, dans ce désert du monde, c'est un lieu privilégié pour rencontrer Dieu, mais ça peut être aussi un lieu de malédiction. Vous savez que c'est une malédiction, là. Il y a un désert en Arabie Saoudite, il n'y poussera jamais rien, jamais. 300 mètres de sable en épaisseur. 300 mètres de sable, qu'est-ce que vous voulez faire pousser? Rien. Une malédiction. C'est comme ça. Mais l'épouse de Yeshua doit se préparer et elle se prépare en traversant le désert. C'est l'épouse du roi. Elle doit se présenter sans tache ni ride. Combien de fois on l'a entendu ça? Et dans Cantique 8 au verset 5, on peut lire « Mais qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?» Qui est celle qui monte du désert? Donc vous voyez, c'est bien du désert qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte. L'enlèvement. Ça, c'est Cantique 8.5, mais c'est aussi écrit dans Cantique 3.6. Il y a deux versets qui disent la même chose. La maison de Dieu doit être épurée parce que pour le mariage, il faut une épouse propre. Alors, le Seigneur a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais il y a eu des déserts. Et Yeshua a débuté son ministère en faisant reculer Satan dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et il a fait reculer Satan dans le désert. Et vous voyez que l'entrée et la sortie d'un désert dans notre vie, ça n'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard dans notre vie à partir du jour où on a dit « Seigneur, je te donne ma vie ». Il l'a prise. Il ne va pas la prendre un jour et puis le lendemain en faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Tous les jours sont dans la main de Dieu. Tous nos jours, toutes nos heures sont dans la main de Dieu. Il n'y a absolument pas de hasard. Mais Dieu est un père, ça n'est pas un grand-père. Donc c'est un éducateur. Voilà. C'est un éducateur. Alors, on rentre dans un désert pour une raison et on en sort transformé. Moi, quand j'avais étudié cette histoire de désert, j'avais repéré 17 déserts dans la Bible. Il y en a peut-être plus, hein, parce que c'est pas évident à trouver. Mais en réalité, ce sont des déserts qui sont les uns à côté des autres. Et quelquefois, c'est juste un morceau de désert qui porte un nom, et puis juste à côté, c'est un autre nom, etc. Mais à chaque fois, il se passe quelque chose de différent. Alors, ici, Le désert est aride. La Bible nous parle d'affreux désert dans Deutéronome 1:19, qui produit des épines dans Juges 8:7, et qui est traversé par un vent brûlant dans Job 1:19, qui disperse et emporte la paille. Vous aurez ces références, hein, je vous les donnerai. Hein. Dans Jérémie 13:24, le désert est inhabité, personne n'y passe, sauf nous. C'est un pays redoutable. Mais la fiancée monte du désert des peuples. Ézéchiel 20:35. Dieu, il laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. 99 dans le désert. Et pour cela, il a dû livrer un combat extraordinaire dans le désert contre Satan après 40 jours de jeûne. Souvent, Yeshua s'est retiré dans le désert. Jean a reçu la vision de la chute de Babylone alors qu'il était dans le désert. Et Dieu a décidé de changer le désert en étang, en verger, en source jaillissante, et il dit qu'il y poussera le cèdre et l'acacia, et ce sera un Éden dans lequel il y a un chemin, un lieu plein de joie et de sécurité. Vous voyez comment le Seigneur veut nous faire passer pour arriver à l'absolu. Le mot désert en hébreu se dit midbar. Midbar. Et dans ce mot midbar, vous entendez dabar. Et dabar, ça veut dire la parole. Donc, le désert, au désert, Dieu donne la parole. Et la parole, on la comprend en la vivant dans les épreuves du désert. Alors, on va passer à travers ce désert, si vous voulez. Ça va, vous avez le temps? C'est bon? On va traverser ce désert. Et je les prends successivement dans la promenade des Hébreux, j'allais dire, qui a duré 40 ans. 40 ans au désert, alors que 11 jours suffisent. Vous vous rendez compte? 11 jours suffisent pour faire le chemin qu'ils ont fait avec des caravanes. Admettons qu'il aurait fallu 3 mois, comme ça, au bout de 3 mois, selon les fêtes de l'Éternel, ils auraient reçu au Sinaï les lois. À Shavuot. Mettons 3 mois, mais ça a duré 40 ans. 40 ans, c'est quand même une grande partie de sa vie. Hein? Alors, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Pan. Ça commence. C'est-à-dire qu'on s'est mis en route pour devenir grand, pour devenir sacrificateur du Très-Haut. Il nous fait démarrer, alors non seulement on a tous les problèmes posés par Satan qu'on a vu avant, mais on arrive dans un endroit où l'eau n'est pas bonne. C'est quoi ça, l'eau pas bonne? Eh bien, allez dans certains endroits qui s'appellent église et où les prédications vous amènent dans des erreurs, mais alors catastrophiques. C'est une eau qui a été viciée. Ils se servent des Écritures pour détourner la pensée de Dieu et faire de vous des esclaves. Ou faire de vous autre chose. Ou faire de vous des gens qui n'attendent que la bénédiction de Dieu et non pas la présence de Dieu. Vous voyez la différence? Ça s'appelle de l'eau viciée. C'est de l'eau qui n'est pas bonne, et qui conduit à la mort. Donc il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est de jeter un bois dans l'eau. Et ce bois, c'est la croix. C'est-à-dire que celui ou celle qui n'a pas compris dans sa vie quel est le rôle du Mashiach, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ma vie réellement, celui-là, il va tourner avec de l'eau viciée. Il va peut-être étudier la parole de Dieu, c'est vrai. Mais on peut étudier la parole de Dieu sans la comprendre. Et à ce moment-là, c'est une eau viciée, je m'excuse de te dire. Pour bien la comprendre, il faut comprendre quelle est l'œuvre de Yeshua dans ma vie. Mais de quoi il m'a sauvé? Qu'est-ce qu'il a fait en moi? Qui est capable de m'expliquer profondément ça? Qui est capable de me faire comprendre ça? Alors celui-là, il me donne une bonne eau. Et quand l'eau est transformée comme ça, alors ce sont des eaux qui sont des sources du salut. Et celui qui boira de l'eau que je... Regardez comme c'est important. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est-à-dire que si quelqu'un prend l'eau, la même eau, j'allais dire, et vous la donne à sa façon, qui n'est pas la bonne façon, c'est pas Yeshua qui la donne, c'est un autre. Et pourtant, elle ressemble. Vous voyez? Et là, ce qui est important dans ce désert-là, c'est d'apprendre à reconnaître dans les messages qui vous sont donnés, est-ce qu'il vient de Dieu ou est-ce qu'il vient d'un autre? Parce que Satan s'est très bien prêché. Satan s'est très bien prêché. Vous savez, vous pouvez avoir une église de 600 membres avec un prédicateur extraordinaire que tout le monde vient parce qu'il prêche extraordinairement bien. Mais Dieu n'est pas dans cette église. Eh oui. Est-ce que le message que vous recevez vient de Dieu ou pas? Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous reconnaissez sa voix? Ou est-ce que c'est autre chose? Voyez? Et quand on reconnaît la voix, on dit ça c'est mon Dieu. Ça je reconnais. Alors ça conduit au salut. Ça ne conduit pas à vous écraser. Ça ne conduit pas à alourdir vos charges. Ça vous conduit à la liberté, à la vraie liberté en Yeshua. On ne peut pas aimer Yeshua si on n'est pas libre. L'amour, c'est pas sous contrainte. L'amour, c'est pas de l'esclavage. Moi, j'aime ma femme parce que je l'aime en pleine liberté. On s'est toujours aimé. Voilà. Maintenant, on a 46 ans de mariage. On s'est toujours aimé. Et on s'aime toujours. Et dans notre quartier, les gens nous ont repérés. Parce que tous les jours, on va promener la main dans la main. Alors on a notre circuit, on fait notre promenade, et tout le monde... Et puis quand il y en a un qui va faire les courses sans l'autre, les gens du magasin, ils disent, bah, et monsieur n'est pas là, ou madame n'est pas là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme ça. Et on a toujours été comme ça. Et l'amour de Yeshua, c'est vraiment un amour profond et un amour qu'on ne... Ça ne se commande pas. C'est vraiment quelque chose de pur, voyez, du propre. Alors ça, c'est le premier désert. Apprendre à reconnaître. Apprendre à reconnaître. Et je vous assure qu'il y a des gens, ils ont besoin d'apprendre à reconnaître. Quelquefois, moi, ça me fait mal au cœur de voir... Des tas de chrétiens courir pour aller écouter tel ou tel prédicateur, tel ou tel prophète ou je ne sais quoi. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris où est la véritable pensée de Dieu. Alors ils courent partout, dans toutes les sources, ils essayent, ils se prennent des ganas tout le temps. Leur vie ne change pas, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé. C'est ça l'amour de la vérité. Vous le sentez, la vérité. Vous sentez, ça c'est vrai. Ça c'est rempli d'amour. Le vrai. Ça c'est le premier désert. On y passe tous. Parce que c'est en démarrant. Mais il y en a qui restent longtemps. Hein. Il y en a qui restent longtemps. Ils se prennent des gadins et des gadins et des gadins. Hein. En tout cas, c'est un désert qui conduit aux sources du salut. Ensuite, on peut passer, parce qu'on peut faire tous les déserts. Hein. Ça, les Hébreux, ils les ont tous faits. Hein. Nous, on n'est pas forcés de tous les faire. Ça dépend de ce que le Seigneur veut nous apprendre. Parce que c'est lui qui nous... Vous vous rappelez que c'est la nuée. Hein. Quand la nuée se lève, hop, on se met en route. Hein. Donc c'est bien lui hein, qui conduit. Paf, un nouveau désert, un nouveau problème. Alors cette fois, on s'en va dans le désert de Sin. Sin, ça veut dire argile. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent d'Élim, ils arrivèrent à Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte. Et tous les enfants d'Israël murmurant, toute l'assemblée murmurant, contre Moïse et Aaron. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Au matin, vous vous rassasirez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. On est fait d'argile, c'est vrai. Hein? Alors, ce sont les souvenirs du passé. Ah, Seigneur, c'était bien quand même avant que je sois converti. Avant que je vienne devant quand Michel m'a appelé. C'était bien. Et vous voyez, le Seigneur, il a dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, hein, n'est pas propre au royaume de Dieu. Bon. La vie dirigée par Dieu est totalement différente de la vie passée. C'est pourquoi la transition peut dérouter. Les valeurs de Dieu ne sont pas les valeurs de l'homme. Et les murmures qui montent à ce moment-là font signifier à Dieu que la deuxième partie du verset de Matthieu 6, 33, je vous la lis, « Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous vous rappelez de ça? Eh bien, quand on murmure, ça veut dire, tu vois, Seigneur, cette deuxième partie-là, eh bien, elle n'est pas bien faite. Parce que tu devrais me donner par-dessus. Et tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas comme je voudrais. Et le Seigneur répond, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Eh oui. Alors, don de foi, comme parlait Michel hier, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3:6. Apprendre à le reconnaître dans toutes ses voies. À un moment donné, Dieu, il y a très longtemps de ça, il a mis un mur devant moi, mais un mur, et comme j'étais un teigneux, j'y ai claqué ma tête. Jusqu'au moment où j'ai compris que le mur, il ne céderait pas. Et que ce serait plutôt mon crâne qui allait se fendre. Et j'ai découvert qu'effectivement, il avait pris ma vie dans sa main, et que lui, chaque instant de ma vie, il y avait sa main à lui. Là, j'ai découvert. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est quelque chose d'important. Alors, il y a deux choses, pour deux raisons, on a le droit de regarder en arrière. Seulement deux. La première, c'est pour nous souvenir de où et de quand nous sommes tombés dans le péché, si c'est arrivé. Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, pratique tes premières œuvres. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est de nous rappeler les bénédictions passées afin de le remercier d'en être reconnaissant. Voilà, c'est les deux seules raisons pour lesquelles on peut regarder en arrière. Mais si le regard en arrière se fait dans un esprit de murmure, alors c'est un affront à Dieu. Et un affront à Dieu, ça peut amener une bonne claque. Mais oui, parce que quand vous avez vos enfants qui font de travers, ça finit quelquefois par une fessée, hein. Et puis tu vas aller au coin à un bon moment, hein, après tu verras, hein. Écoute, tu vas finir par obéir. Ben c'est comme ça. C'est pas moi, hein, qui le dis, hein. Dans Jérémie 15, 6, qu'est-ce qu'on lit ? « Tu m'as abandonné, dit l'Éternel, tu es allé en arrière. Mais j'étends ma main sur toi et je te détruis. Je suis las d'avoir compassion. » Sévère, hein ? Vous savez, s'il a été sévère comme ça avec Israël, peut très bien être sévère comme ça avec l'Église, hein ? Eh oui. Alors, si nous cherchons réellement le royaume, c'est Dieu qui organise notre vie. Et ce désert-là, c'est le désert du murmure, de l'impatience, et on ne comprend pas encore le plan de Dieu pour nous. Alors, patience, patience. On a un ami qui fait de la relation d'aide, il habite dans une ferme, et il y a quelquefois des gens qui viennent comme ça. Et un jour, il y a une personne qui est venue, il dit « Frère, il faut que vous priez pour moi, pour ça, pour ça, pour ça. » « Ah oui, mais il faut d'abord que j'aille donner à manger aux bœufs. » Alors la personne, au bout d'un moment, elle dit « Frère, il faut prier pour moi, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. » « Ah oui, mais maintenant, je dois aller faire ceci, cela. » Et il l'a fait patienter comme ça. Au bout d'un moment, elle était épuisée. Elle a dit « Maintenant, je vais pouvoir prier pour toi. » Parce que c'est plus ta volonté, c'est la volonté de Dieu. Eh oui. Quand on veut dire à Dieu comment il doit nous délivrer, c'est embêtant, hein. L'impatience. Le désert suivant, c'est le désert du Sinaï. Sinaï, ça veut dire falaise. Et au désert du Sinaï, il y a un autre nom, c'est Horeb. Horeb, ça veut dire déchet. Ce désert, ça a été le désert où Moïse a traversé quand il s'est sauvé après avoir tué un homme. Et puis, il est allé en Madian pendant 40 ans. 40 ans de désert. Sinaï, ça veut dire falaise. 40 ans de désert. Vous imaginez un petit peu. 40 ans de désert, pourquoi ? Parce qu'il a voulu faire sa propre volonté, sa propre justice. Il avait été formé pendant 40 ans, comme pour devenir premier ministre, on va dire, d'Égypte, donc des hautes études. Et le Seigneur doit le changer complètement, 40 ans d'une autre formation. Et au bout de ces 40 ans-là, il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. 40 ans. Vous voyez, on entre dans ce désert-là en disant « Je sers Dieu comme je veux ». C'est ce que Moïse faisait. Et en servant Dieu comme il voulait, il a tué un homme. Ben oui, il voulait faire la justice. Faire la justice, c'est servir Dieu. Il a tué un homme. On entre dans ce désert en disant je fais la volonté de Dieu comme je l'entends. Ah bon? Tu dis tu fais ça? Eh bien, je vais t'emmener au désert. Ça va durer un certain temps. Et au bout de ce certain temps, ici 40 ans, c'est moi maintenant qui vais te dire comment tu vas faire. Tu vas effectivement faire la justice, mais à ma façon. Vous vous rendez compte? Alors ne vous étonnez pas hein, que quelquefois Dieu ne réponde pas à vos prières. Quand Dieu a décidé de ne pas répondre, il ne répond pas. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la façon. C'est le désert du brisement et de la discipline. On a besoin d'apprendre la discipline de Dieu. Et ça peut durer longtemps. On a eu, nous, suffisamment de coups de pied au derrière. Ça va, c'est bon, le cuir est épais. Maintenant, on a compris. Donc maintenant, on va, quand lui, il ouvre une porte, une fenêtre, c'est là qu'on va. Mais on ne cherche rien. On ne cherche rien. Ça ne sert à rien. Si c'est nous qui cherchons, si c'est nous qui demandons pour faire quelque chose, ce n'est pas de Dieu. Je le sais. Je sais, moi, je sais intimement, Seigneur, si tu veux que j'aille quelque part, tu ouvriras. Ça sera très clair. Voilà. À quoi ça sert de chercher ça ? À quoi ça sert de chercher quelques gloires passagères ? Okay. Mais à quoi ça sert ? Mais c'est nul. Vous voyez ? C'est très humain tout ça. C'est très humain. Donc, il faut passer par des brisements. Ensuite, on a le désert de Paran, qui veut dire verdoyant et rempli de cavernes. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva d'au-dessus du tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Alors, ici, dans ce désert, il se passe quelque chose d'étrange. Vous savez que Dieu avait donné la manne. La manne, c'est la bénédiction. La parole de Dieu, c'est la bénédiction. Manger la parole de Dieu, c'est la bénédiction. Et qu'est-ce qu'on dit ici, Nombre 11, 6, dans ce désert ? Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la manne. C'est-à-dire que dans ce désert, on ne sait pas voir ce que représente la bénédiction de Dieu dans nos vies. Dieu nous bénit à sa façon. Et nous ne le voyons pas. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est aussi de ce lieu que sont partis les 12 espions pour aller visiter Canaan. On découvre après le compte-rendu qu'il y en a 10 sur 12 qui sont démoralisés. Au fond, dans ce désert, ils disent « Les promesses de Dieu ne sont pas pour nous. » Nous n'avons pas vu la bénédiction de Dieu et les promesses de Dieu ne sont pas pour nous. Autrement dit, de ce désert-là, on part pour gagner ou on reste dans la défaite. Il y a un choix. Dieu nous invite à combattre pour prendre possession de cette promesse. Il nous invite aussi à ouvrir nos yeux sur les bénédictions dans nos vies. Ça rejoint, reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Dans ce désert, voyez, David, le roi David, il a rencontré Abigaïl, qui était mariée à un homme très méchant. Et il avait vu Abigaïl. Il aurait bien aimé prendre Abigaïl, mais elle était mariée. Obstacle insurmontable. Et l'homme méchant est mort. Alors il a pu se marier avec Abigaïl. Vous voyez, les obstacles insurmontables, obstacles insurmontables à vue humaine. Mais Dieu est tout puissant. Et si c'est lui qui a décidé, et si c'est sa bénédiction, il le fait. Il a tout pouvoir. Il a absolument tout pouvoir. Ensuite, vous avez le désert de Tsin, qui veut dire petit palmier. Alors, ça, c'est aussi le désert de Kadesh, qui veut dire consacré, saint. À partir de ce désert, Moïse a demandé l'autorisation au roi d'Édom de passer. Et le roi d'Édom lui a refusé. Or, Édom, c'est le frère d'Israël. C'est donc un frère qui le trahit. Dans ce désert, vous avez eu également la révolte de Corée, qui était, lui, un lévite très haut placé, qui s'est révolté contre Moïse. Et il a été éliminé par Dieu. Autrement dit, dans ce désert-là, quand on avance, et je peux vous dire, on l'a vécu, nous, ce désert, on le vit encore, eh bien, on apprend la consécration dans la souffrance des trahisons. Les gens qui, normalement, auraient dû être là pour nous aider, nous trahissent, sont contre nous, nous empêchent de passer, nous empêchent de faire, etc. C'est normal, ça fait partie de la formation. C'est comme ça. Et tant pis. Il faut pardonner. Pardonner, surtout pardonner. Pardonner, c'est tout. Mais vous reconnaîtrez dans ce désert-là que vous reconnaîtrez les véritables serviteurs de Dieu, les véritables servantes de Dieu. Et une véritable autorité spirituelle, c'est pas quelqu'un qui va venir se vanter d'un titre ou quoi que ce soit. Ça, c'est d'un ridicule absolu. C'est quelqu'un, on le sent, et puis c'est tout. On le sent. Alors, on entend la voix de Yeshua. Ces brebis entendent sa voix. Parce que c'est un véritable serviteur. Mais sachez que vous serez trahi. Vous serez trahi par... Regardez Corée comme il était proche de Moïse. Il était vraiment très proche. Et puis même Édom par rapport à Israël, c'est très proche, c'est son frère. Donc c'est le désert des faux frères. Eh bien oui, l'Église en est pleine. Il y en a plein. Parce que l'un cherche la gloire, l'autre autre chose, etc. Il y a des jalousies. Dans ce désert, on apprend à discerner les choix de Dieu, les vrais serviteurs, les vraies servantes de Dieu, les choix de Dieu et à les respecter. Je n'ai aucun problème, moi. Pourtant, je suis atteigneux, je peux vous le dire. je n'ai aucun problème avec l'autorité. L'autorité spirituelle, quand je reconnais une autorité spirituelle, j'ai aucun problème avec. Mais si c'est une fausse autorité, alors c'est lui qui a des problèmes. Parce que je ne m'y soumets pas, c'est tout. Et dans ce cas-là, ben, j'en prends un coup de pied en général et puis je m'en vais. Le désert de Beersheba, ça veut dire puits du serment. Alors, ça arrive aussi. On va peut-être pas passer à travers tous les déserts, vous savez, mais le désert de Beersheba, c'est un désert terrible. Parce que c'est Abraham s'est levé de bon matin, il a pris un pain et une outre d'eau, et il l'a donné à Agar, il l'a mis sur son épaule, il lui remit l'enfant et la renvoya, et s'en alla, elle s'égara dans le désert de Beersheba. C'est le désert de l'abandon. Le désert de l'abandon, c'est un des plus terribles. C'est là qu'Agar et Ismaël ont été abandonnés, comme on vient de lire, mais c'est là aussi que Élie se sauve et qu'il dit « je veux mourir ». Et vous voyez, c'est Dieu veille sur ses enfants, mais il peut consoler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans les deux cas, que ce soit Élie ou Agar, ce sont des anges qui sont venus les aider et les consoler. Des anges. Donc Dieu sait. Dieu sait dans quel désert vous êtes. Mais vous voyez, il y a fréquemment, on abandonne les vieillards. On abandonne les enfants quelquefois. Les enfants qui sont chassés de chez eux. Des hommes ou des femmes qui sont abandonnés par leurs conjoints. Des tas de choses comme ça. Et Dieu peut intervenir et soulager et rendre un avenir sur terre comme au ciel à ces gens-là. Et puis, le dernier désert, c'est le désert de Jéruel, qui veut dire maison de Dieu. C'est le désert de la dernière extrémité. C'est-à-dire que c'est le désert où on est coincé, mais de chez coincé. Soit par des ennemis, soit par la maladie mortelle. Il n'y a plus rien à faire. On a pardonné à tout le monde. On est prêt à mourir. C'est la fin. C'est le désert de la fin. Vous savez qu'on est tout seul hein, quand c'est comme ça. On est tout seul. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, c'est dans ce désert que Dieu a dit « Dieu combattra pour vous ». Dieu combattra pour vous. David a été encerclé par les troupes de Saül. Il a été complètement encerclé. Il était sur le point d'être mis à mort. Et tout d'un coup, Saül a été appelé ailleurs. Oui. Dégagé. Et il y a eu plusieurs guerres comme ça, vous les lirez sur le document, où on voit une délivrance miraculeuse. Tout d'un coup. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière minute, Dieu est capable, si c'est son plan, si c'est sa volonté, de vous sortir d'une ornière dont vous ne pourriez pas sortir tout seul, personne, parce que Dieu a décidé de vous sortir et que ce n'est pas le moment. Vous voyez, c'est comme ça. Chacun son chemin. Mais la fiancée monte du désert. Et ce sont des fiancés remplis d'amour. Cantique 2 nous dit « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. » Et la gazelle, c'est c'est cet animal qui bondit sur les montagnes comme ça. Et j'aime bien parce que c'est un symbole d'Israël, la gazelle. Et quelquefois, hop, il saute, on la voit dans la montagne, et tout d'un coup, on a l'impression qu'elle tombe dans un trou et qu'elle s'est tuée. Et puis on la retrouve plus loin. Elle est passée par un autre chemin. En Israël, la main de Dieu, on la voit comme ça. Par moment, il ne se passe rien. Par moment, on voit la main de Dieu. Guerre des 6 jours. Oh, extraordinaire, la gazelle. Puis après, plus rien. Dans notre vie, quelquefois, on se dit, mais où est Dieu? C'est une gazelle aussi. Le fiancé est comme une gazelle. Et ce fiancé, il dit, mais fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix. Vous savez que dans le Cantique des Cantiques, il est écrit, mon bien-aimé est derrière notre mur. Vous imaginez ce que ça fait dans l'esprit d'un juif, ça? Mon bien-aimé est derrière notre mur. Quand je suis allé au mur, j'ai prié, j'ai mis ma prière dans le mur. Un juif est venu vers moi, il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, comment tu t'appelles? Ben, je lui ai dit, Daniel, et ta femme, et tes enfants, comment ils s'appellent? Et puis il a prié pour moi, et il a prié ce que j'avais mis sur mon papier. Mon bien-aimé est derrière notre mur. Vous imaginez? Dans Cantique 3, 1, 5, il est dit, quatre fois, j'ai cherché, je l'ai cherché, je chercherai, je l'ai cherché. Et au verset 4, il dit, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, je ne l'ai pas lâché. Est-ce qu'il n'est pas écrit pour nous dans Actes 17, 27, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. En tâtonnant. Nous cherchons Dieu dans nos vies en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est fort quand même, hein? Alors le cœur de la fiancée monte du désert en louange. Et lui, il regarde à travers son voile et il l'admire. Oui, il admire sa fiancée. Il admire sa fiancée. Que Dieu fasse que vous soyez tous membres de cette fiancée. Et elle, au bout d'un moment, elle dit, mais j'étais endormie, mais mon cœur veillait. Vous savez, c'est un peu comme les chats. Ils dorment, mais ils dorment pas. Pourquoi? Parce que on sait qu'il vient. Alors je dors, mais d'un œil, hein. Et je sais qu'il va venir. Et il lui dit, que lui direz-vous? Que lui direz-vous? Et la réponse est, je suis malade d'amour. Je suis malade d'amour. C'est ça la fiancée. La fiancée monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Comme c'est beau. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.